analyste, expert de la politique américaine. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, content d'être là.
Nous avons également Nassir Rouba, économiste, expert en développement agricole, sécurité alimentaire et changement climatique. Vous avez travaillé pour la Commission économique pour l'Afrique et pour les Nations Unies. Bienvenue.
Merci beaucoup.
Alors, ce débat, vous l'avez vu dans son discours de victoire, Donald Trump a lancé un appel à l'unité. Il a exhorté les Américains à mettre les divisions de côté. La division de ces quatre dernières années derrière, c'est peut-être trop tôt pour poser la question, mais selon vous, quels sont les facteurs qui ont favorisé ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche?
Ah, écoutez, il y en a plusieurs, mais le principal, et le chiffre est tombé dans la nuit, Kamala Harris a eu 40 millions de voix en moins que celle de Joe Biden. Donc, en clair, elle n'est pas arrivée à égaler le score de Joe Biden il y a 4 ans. En d'autres termes, cela veut dire que de nombreux démocrates, on dit à peu près environ entre 10 et 15 millions de démocrates ne se sont pas déplacés pour aller voter. Il n'y a aucun schéma avec de tels chiffres qui aurait pu lui permettre de gagner. Alors, pourquoi les démocrates ne se sont pas mobilisés? Comment se fait-il qu'elle ait eu 40 millions de voix en moins? Ça va être la grande question. Ça peut être lié au message. Le message qui n'était pas suffisamment agressif au sens où il ne tenait pas suffisamment compte des besoins, des désirs, des ambitions des électeurs, et notamment au niveau de certaines minorités dont elle a toujours besoin pour pouvoir gagner. En tout cas, dont un démocrate a toujours besoin pour pouvoir gagner. Donc voilà quelques pistes qui pourraient... mais je pense qu'on aura besoin un peu de temps pour pouvoir analyser ces résultats.
Alors, on peut poursuivre dans ce sens avec le retrait de Joe Biden. En effet, l'entrée en scène de Kamala Harris, on a vu que la campagne démocrate avait pris un regain d'énergie et même engrangé assez de fonds pour soutenir la campagne et susciter aussi l'engouement des électeurs. On a vu à en croire les différents sondages. Comment expliquer ce revers? Je suis un tout petit peu perdu. La campagne de Kamala Harris a-t-elle manqué d'impact dans certains États? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que Kamala, elle a été victime d'une malorganisation du parti démocratique. Parce que c'est vrai que elle a été plus approuvée que Biden. Biden chutait vraiment. Donc, et cela avait commencé très longtemps. Le parti n'a pas pris conscience. Et c'était un problème de ego. Alors, comment dire à Biden de ne pas se représenter? Donc, ils ont tardé pour faire le coup.
Donc, il aurait dû se retirer beaucoup plus tôt?
Il aurait dû se retirer beaucoup plus tôt et que les démocrates aient la chance d'aller à une primaire. Il y a des gens comme le gouverneur de la Californie était mieux placé, moi je dirais, que Harris. Et maintenant, Harris n'a eu que 107 jours. C'était comme une campagne McDonald's, tu vois. Donc, ça manquait beaucoup d'épices dans sa campagne. Le message était clair, le message était bien, le message était bien parcouru, mais ça manquait une couche vraiment vigorante de la classe moyenne de l'Amérique.
Je sais que la question du choix du vice-président vous a été posée hier sur ce même plateau. C'est un avis que vous partagez? Le choix du vice-président aurait pu changer quelque chose dans cette campagne?
Je ne crois pas, franchement. Ça aurait été Shapiro, ça aurait été Newsom, ça aurait été n'importe quel autre candidat. Je ne pense pas que dans le contexte actuel, cela aurait changé grand-chose. Et vous savez, le vice-président, c'est vraiment sur la marge hein, que son impact. Regardez, si même elle avait pris Shapiro, même si elle avait gagné la Pennsylvanie, regardez, si vous regardez les chiffres, elle n'aurait pas remporté cette élection. Et ce n'est même pas sûr que Shapiro lui aurait fait gagner la Pennsylvanie, même si ça avait été le cas. En Pennsylvanie, au demeurant, même dans les zones de banlieue, autour de Philadelphie et des autres grandes villes, elle a perdu du terrain par rapport à ce que Joe Biden avait fait. Et non seulement elle a perdu du terrain, mais Donald Trump en a gagné. Donc, avec de tels chiffres, je ne vois pas comment il était possible de remporter une telle élection.
la candidate démocrate a finalement fait son discours de concession hier soir. Elle a reconnu sa défaite en appelant Donald Trump pour le féliciter. Joe Biden a aussi appelé le président élu Trump pour le féliciter de sa victoire électorale et l'a même invité à la Maison Blanche. Cette réélection de Donald Trump, c'est aussi une victoire de la démocratie ici aux États-Unis.
Ah oui, quelque part, surtout après une campagne aussi difficile. Après, il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé à la fin du dernier mandat de Donald Trump, notamment le 6 janvier. Donc, dans le cadre de la vie politique que les États-Unis ont connue depuis 4-5 ans, et même, on pourrait même dire qu'on peut remonter à 2016, au moment où Donald Trump a annoncé sa candidature et son premier mandat, c'est vrai que la situation, la démocratie américaine a été chahutée, a été fortement chahutée depuis une bonne huitaine d'années. Et quelque part, on pourrait dire que cette étape-là, en tout cas, a été bien amorcée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le prochain mandat? Ça, c'est encore une autre question.
Nous aurons l'occasion de l'analyser en deuxième partie de ce débat. Comment avez-vous apprécié le geste, ce coup de fil passé à Donald Trump avant le discours?
Oui, bon, ça, c'est le gentleman. c'était le gentleman call. Mais, c'est-à-dire, la démocratie américaine est un couteau à double tranchant. Autant les lois sont là, autant aussi il y a un favoritisme qui est là, sous la table. Tu vois, et si tu vois comment Donald Trump est analysé par la majorité des Américains, qu'il est agressif, il est impoli, si je peux le dire sur le plateau, etc., etc. Il insulte les femmes, il insulte les immigrés, il insulte les pays.
Mais il y a aussi eu des débats qui disent que ce n'est pas tant sa personnalité qui compte, mais voilà, ce qu'il propose.
Bon, donc, à la fin du jour, ce que les gens regardent, c'est ce qui est sur la table. Tu vois, les gens trouvent que Kamala n'a pas, par exemple, développé comment elle va diminuer les coûts. Il a dit qu'elle va diminuer les coûts des condiments, les coûts de la nourriture, etc. Elle n'a pas expliqué.
Mais est-ce que du côté républicain, on a vu de réelles propositions sur le programme de Donald Trump?
Les gens voient Donald, 4 ans plus tôt, dans son passage dernier, là où l'inflation était moins qu'aujourd'hui. Donc il compare toujours ce Donald Trump au Biden d'aujourd'hui. Il dit qu'il va faire la même chose, il va diminuer les prix.
C'est un avis que vous partagez, monsieur Lake?
Oui, peut-être que dans la perception, la question de l'inflation, la question du prix des denrées, du coût de la vie, je crois qu'effectivement a eu un impact important. Et peut-être que les démocrates et l'administration Biden-Harris n'est pas arrivé à avoir un discours suffisamment clair sur cette question. Et c'est d'autant plus surprenant qu'il y a encore, quoi, il y a 2-3 semaines, le The Economist, un journal relativement conservateur, disait que
l'inflation a chuté.
Non seulement l'inflation a chuté, mais disait que l'économie américaine était l'envie du monde. Les États-Unis est le pays au monde qui a le mieux récupéré de la situation Covid. L'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée. Mais pourtant, en termes de perception,
cela
ce n'est pas du tout.
Jouer en faveur,
voilà, mais ce n'est pas du tout la perception que le peuple américain a, que les Américains ont. Et souvent, vous savez, la perception est plus importante même que la réalité. Et c'est un peu ça qui les a rattrapés. Mais moi, mon point de vue, reste, on en a, je crois, discuté une fois sur votre antenne. Mon point de vue, c'est que la fracture, elle est vraiment culturelle plus qu'autre chose.
On a beaucoup parlé de la présidentielle américaine, mais les Républicains ont aussi pris le contrôle du Sénat avec cette élection. Qu'est-ce que cela représente concrètement? Est-ce qu'il y a eu des surprises dans ces élections sénatoriales, monsieur Bas?
Oui, il y a eu des surprises. Parce que c'était un choc tout à fait accompli, quoi. Parce que non seulement elle a perdu la présidentielle, les Républicains ont pris le Sénat et ils risquent de prendre la maison des représentants. Les chiffres que je vois, c'est pas bon. Et donc, c'est comme toutes les institutions maintenant seront républicaines. Tu vois, la Cour suprême, il y a 6 personnes sur 9 qui sont républicains, et puis le Sénat républicain, si la Maison des représentants devient républicaine, le président, c'est fini là. Donc vraiment, C'est-à-dire le message que les messages clés qui étaient là, c'est-à-dire l'immigration, l'économie, et la démocratie, etc. Les gens croyaient que Kamala avait un message vraiment qui passait, hein, mais c'est-à-dire ça ne passait pas à l'oreille des gens qui souffrent économiquement chaque jour. La démocratie, oui, mais dis donc, ça ne va pas. Moi, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc, comme je dis toujours, il compare toujours l'actualité à ce qui s'est passé avec Donald Trump dans le passé. Et vous avez vu que dans les zones rurales, c'était une ruée pour Donald Trump, surtout des gens qui n'ont pas fait le collège. Parce que eux, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est très simple. Si je ne vois pas ça, je ne vote pas. Donc, moi, je crois que la surprise était totale.
Alors, dans ce contexte où le Parti républicain pourrait contrôler, contrôle déjà la présidence, le Sénat et probablement la Chambre des représentants, ma question est comment préserver l'équilibre des principales institutions, notamment dans la prise de décision, sous le mandat de Trump?
Ah, écoutez, dans les stratégies politiques, bon, il a un mandat, hein, un mandat relativement clair, donc il n'y aura pas de retenue particulière. Je crois qu'il a déjà annoncé, et en début d'émission, le reportage de Lionel était très pertinent à ce regard. Donc, maintenant, ce qui est en termes
de... Je le trouvais plutôt modéré lors de son discours de victoire, pardon,
ouais,
surtout sur la question de l'immigration.
Oui, on va voir. Bon, moi, je ne pense pas qu'il va tout mettre en œuvre. Il n'en a pas les moyens. Vous savez, déjà au premier mandat, il avait déjà fait de telles menaces. Ça ne s'est pas réalisé. D'un point de vue économique, aujourd'hui, les États-Unis, l'économie américaine ne pourrait pas supporter une expulsion massive des immigrés. C'est simplement pas possible. Et des illégaux. Parce qu'au niveau de l'agriculture, au niveau de la construction, l'économie américaine ne pourrait pas supporter un tel choc. Donc je pense que cela va être modéré, mais même modéré, ça peut avoir un impact énorme, hein, sur la vie des gens, les gens de famille, etc., y compris même au plan économique. Mais en tout cas, pour revenir à la question initiale, je crois que l'équilibre, on va peut-être le trouver au niveau du système judiciaire, hein. Je crois que le système judiciaire américain est quand même assez robuste, et le premier mandat de Donald Trump nous l'a montré. Donc, si vous voulez, l'équilibre, un peu l'élément de contre-pouvoir, je crois que ça va être le système judiciaire et bien entendu le jeu politique, parce que les démocrates restent quand même relativement forts au niveau du Congrès, parce que même si au niveau de la Chambre basse, les républicains gagnent, ça sera de quoi 3-4 voix, donc il sera obligé d'avoir des formes de compromis.
Vous voulez dire?
Oui, il y a aussi le fait que, bien vrai que le Sénat les appartient maintenant, mais pour que quelque chose passe au Sénat, il faut 60 voix sur les 100. Ils sont 100 là-bas. Donc, nous avons vu hier que c'était 52 républicains là-dedans. Donc, ils vont toujours aller de l'autre côté de la salle pour négocier oui, démocrate, pour que quelque chose passe. Il faut toujours 60 voix. Donc, c'est un équilibre qui est là et ils seront obligés de travailler ensemble. Et ces 8 sont toujours là pour balancer, quoi. Alors, si on vous donne ça, vous allez nous donner ça, etc. Donc, il y a toujours une petite balance.
On va s'intéresser à la réaction de nos téléspectateurs sur cette réélection de Donald Trump. Comment réagissent les Africains à cette réélection? Je vous propose quelques commentaires recueillis sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad qui nous dit que Donald Trump a convaincu les Américains par sa politique en leur profit. Et son retour est le fruit du vouloir du peuple américain pour remédier aux problèmes de l'Amérique agonisante. Diallo Tierno de Conakry en Guinée nous dit qu'un retour qui fait très peur, selon lui, pour la continuité de l'état de droit et la démocratie américaine. Quant à l'Afrique, il ne faut pas espérer de gagner quelque chose avec lui, car durant son premier mandat, il avait totalement ignoré le continent. Kébé Ibrahima de Bamako, au Mali, dit que le retour de Trump va sauver le monde. Les démocrates, selon lui, ont déçu l'humanité en provoquant la guerre partout. Dieu a envoyé Trump pour mettre fin aux crises actuelles provoquées par les démocrates. Merci pour vos différentes réactions et quels sont les projets de l'administration Trump pour ce second mandat. On se retrouve après la pause pour la suite de ce débat et les commentaires de nos invités dans Washington Forum sur VOA.
notre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Full Day.
Dans des Full B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17 630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Full Day.
Alexandrine Frolognon avec vous dans Washington Forum sur VOA Afrique. Donald Trump revient à la Maison Blanche, mais à quoi va ressembler ce nouveau mandat pour les Américains et pour la politique étrangère des États-Unis? Pour la suite de ce Washington Forum, je suis avec René Lake, journaliste et analyste politique. J'ai avec moi également Nassir Ouba, économiste. Et on l'a vu, un déferlement de félicitations depuis la victoire de Donald Trump. Les leaders mondiaux ont adressé leurs félicitations au nouveau président américain, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a salué le plus grand retour de l'histoire. La guerre à Gaza a joué, et le rôle joué par les Américains, surtout, était au cœur de la campagne présidentielle. Que pourrait signifier la victoire de Trump pour les tensions au Moyen-Orient, René Lake?
Ah, là, ça c'est une grande question, c'est une question difficile. A priori, on peut penser que Israël aura peu de retenue, disons, pour parler simplement. Je ne vois pas de schéma dans lequel les pressions de l'administration Biden, que l'administration Biden exerçait sur l'État israélien dans le contexte politique actuel.
Parce que tout en voulant mettre fin à la guerre à Gaza, les deux candidats pendant la campagne, on l'a vu, ont tous apporté leur soutien à Israël d'une manière ou d'une autre.
Oui, mais avec la différence suivante, c'est que Biden mettait une pression quand même relativement importante sur Israël sur la question du cessez-le-feu, sur la question de l'aide humanitaire, et je ne suis pas sûr que ça va être un peu le discours de Trump. Il va certainement, peut-être d'un point de vue de la forme, mais d'un point de vue du fond, c'est beaucoup plus un allié idéologique, on pourrait dire, de Netanyahou que Biden ne l'a jamais été. En fait, les rapports entre Biden et Netanyahou, les rapports entre Netanyahou et les démocrates de manière générale sont particulièrement tendus depuis plusieurs années, depuis même avant même Obama. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, Israël va risquer d'avoir carte blanche dans ce conflit.
Un avis sur cette question, M. Ba?
Oui, c'est-à-dire que le soutien de l'Amérique pour l'Israël, je l'ai dit, ne changera pas. Que ce soit un président démocrate ou un président républicain. Mais Trump est allé jusqu'au bout en déclarant Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ça veut dire que vous avez carte blanche. Donc maintenant, on a peur vraiment que ce conflit ne se dégénère à une semblant extension des gens de la Palestine là-bas. Donc, quelle pression d'autre que on peut mettre sur Trump?
Vous l'avez vu dans les commentaires, il y a énormément de personnes qui pensent que Trump pourrait aider à mettre fin à ces conflits, surtout les tensions actuelles au Moyen-Orient.
Oui, parce que, vous savez, l'opinion internationale, il s'en fout. NATO, il dit qu'il va sortir. Ou bien, tout le monde paye, parce que la cotisation de NATO, l'Amérique paye plus que les autres. Il dit, non, c'est pour tout le monde, on va payer, tout le monde va payer, sinon je sors. Donc, on ne voit même pas qui peut mettre une certaine pression sur Donald Trump et sur Netanyahou. Donc, vraiment, on est dans une impasse.
C'est le flou total en ce qui concerne également l'adhésion ou non de Donald Trump à l'OTAN, si jamais la question survient.
Oui, non, je ne pense pas qu'il va se retirer de l'OTAN, mais c'est sûr qu'il va pousser son agenda ou disant que les Européens doivent cotiser beaucoup plus, s'impliquer beaucoup plus. Et vous voyez déjà en ce moment même où on parle, les Européens sont en train de prendre des mesures dans ce sens, dans ce sens-là. Mais par contre, là où il va avoir certainement un impact plus ou moins important, en tout cas peut-être au détriment de l'Ukraine, mais ça sera dans le conflit russo-ukrainien. Là, je crois qu'effectivement, la donne pourrait changer. Oui, tout à fait. Par rapport à l'aide apportée à l'Ukraine, et peut-être aussi un regard plus indulgent par rapport aux ambitions territoriales russes en Ukraine.
Alors, les questions de douane, de droit de douane avec la Chine ont fait l'objet aussi de plusieurs déclarations de la part des candidats pendant cette campagne électorale. Est-ce qu'on peut s'attendre à une intensification des sanctions commerciales contre la Chine ?
Oui, alors je ne sais pas, parce que je me suis toujours dit que peut-être qu'il était un peu arrivé à la zone rouge, hein, c'était un peu la zone maximale, parce que la réponse chinoise a été relativement modérée pendant son premier mandat. Je ne sais pas si dans le contexte international actuel, je crois qu'il a peut-être un peu plafonné à ce niveau-là et qu'il n'ira pas au-delà. Mais on ne sait jamais, parce que c'est une arme. Donc, je sais que d'un point de vue du discours, d'un point de vue de la rhétorique, on entendra toujours les mêmes choses. Est-ce que d'un point de vue pratique, il va effectivement aller un peu plus loin dans la taxation des produits importés de Chine? J'en doute, parce que cela pourrait mettre à mal un peu l'économie américaine.
Vous êtes économiste?
Oui. Bon, les questions de tarifs, c'était lui qui a fait ça, hein, parce que c'était pas quelque chose que les gens ont pensé mettre en place avant Trump.
Et Biden ne l'a pas remis en cause.
Biden ne l'a pas remis en cause. Donc vraiment, et ça apporte des milliards. Ça apporte des milliards. Et nous savons tous que maintenant l'économie américaine est dans la dette américaine, je dois dire, elle est très très élevée. Bien vrai que l'aide à l'Ukraine, tous les milliards que Biden a envoyé à l'Ukraine, bien vrai que en réalité ces milliards-là c'est donné en armes et c'est donné aux fabricants d'armes américaines, tu vois, pour essayer de, parce que quand ils disent que j'envoie 10 milliards à l'Ukraine, en réalité ce qui va en monnaie liquide c'est des millions, le reste c'est en armes.
Ça reste dans l'économie américaine.
Ça reste dans l'économie américaine. Donc, ces enjeux-là, Trump est vraiment très bien placé. C'était un businessman. Hein. Donc, quand il voit où, même son alliance avec, comment s'appelle le gars de Tesla, là,
Elon Musk.
Mm-hmm. Il est en train de faire ça parce qu'il pense à quelque chose que l'État américain peut avoir. Bien vrai que lui aussi, il pense trouver quelque chose de l'État américain.
Merci pour vos éclairages. Juste en quelques petits mots, est-ce que vous pensez que ce mandat serait un mandat de totale rupture avec l'administration Biden ?
Par rapport à Biden, oui, certainement. Oui. Je crois que de ce point de vue, tant au plan national que même au plan international. Oui.
Moi aussi, je crois carrément à ça.
Merci pour vos éclairages, René Lake, et vous, monsieur Nassir Ouba. C'est la fin de ce Washington Forum avec Alexandre Impon, l'oignon à la présentation. Merci à vous également qui nous suivez à travers nos télépartenaires sur le continent. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis, 19h temps universel, sur VOA Afrique, voafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche. Bonne soirée et bonne suite de programme sur VOA Afrique.